tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver dans Alterbulle, l'émission BD avec alterinfo.com, avec Monsieur B, le grand BDiste de
grand,
nos...
je sais pas.
Si, si. Oh bah si, en même temps. Voilà, où on avait décidé la semaine, enfin le mois passé, de faire un thème particulier par mois. Alors que cette année, cette fois-ci...
Bah, le thème, c'est la musique. Ah, voilà, un truc dont on parle un petit peu sur Alter Info. Donc, je me suis dit, tiens, bah, je vais essayer de trouver quelques BD.
Peu, ouais.
Et je suis revenu avec plein de BD. Ça tombait bien. Alors, bon, on n'est pas sur les sorties, on n'est pas sur du récent. Hein, là, c'est plutôt une sélection 2014 encore. Mais c'est que de la très très bonne BD de 2014. Donc,
ça
tombait bien.
On est vraiment désolé que cette émission soit audio et pas, enfin sonore et pas visuel, parce que c'est vraiment très très beau. On va essayer de vous donner envie.
Mais justement, c'est le thème. Comment parler de BD, de musique sans le son?
Sans le son.
Voilà.
Ah, je suis impatiente d'écouter ces Ustix. D'où ils viennent, tu disais?
Eh bien, je ne sais pas beaucoup sur leurs origines, mais ils ont leur propre style, c'est certain. Évidemment, il y a quelque chose de la mouvance post-kraut. Et la voix sort tout droit d'une démo de Lazanoé Overdrive. Mais... c'est un nouveau groupe et je trouve qu'ils sont très prometteurs. Alors, qu'entendis-tu? Pas mal, hein?
Ouais, c'est pas mal du tout. Je les comparerais pas à la scène post-kraut comme tu le fais. Pour moi, ils sont clairement influencés par les premiers groupes d'Indus. Un peu déviants comme Fulanus of a Dead Dog ou Stumbling Mussolini's. Avant l'arrivée, bien sûr, de Justice Skipper à la basse.
Oh, vraiment? Bon à ce point? Mais qui sait, c'est Stumbling Mussolini's?
Non, pas à ce point. Fulanus of Dead Dog sont clairement à un autre niveau. Alors, on vient de vous lire la quatrième de couverture d'un...
De Rock World.
De Søren Musdal et Jacob Ørsted, qui sont danois, comme leur nom l'indique.
Voilà, alors c'est une sortie d'un... petit label que j'adore, enfin d'un label, pourquoi je dis label,
tu vois,
je
dis label, c'est la musique, on va faire
c'est
des
la musique,
lapsus,
ouais. D'un éditeur que j'adore qui s'appelle Uchi Kuchi, voilà, les,
dont tu nous as parlé souvent.
Voilà, je vous ai souvent parlé de leur sortie, et donc là c'est une compilation de récits donc, qui ont été déjà publiés au Danemark,
ouais.
Et qui étaient publiés dans Torquay Comics, qui est le fanzine, le magazine de l'éditeur.
Alors, pour les programmateurs, pour les gens qui organisent des concerts, c'est le livre à conseiller.
Oui.
Raconte-nous un peu.
Voilà, il faut qu'ils aient de l'humour quand même, parce que ça bâche sévère. Donc, c'est l'histoire de Charley. Alors, Charley, c'est un peu nous. Charley, c'est un blogueur à grosses lunettes, avec une silhouette un peu dégagandée comme ça. Et donc, lui, il écrit sur des groupes
J'aime
totalement...
bien notre définition.
Oui, c'est vrai. Il écrit sur des groupes complètement obscurs.
Ça, c'est nous.
Voilà, il est spécialisé dans une espèce de noise expérimentale, tout ça. Il chronique des albums voilà, qui
l'intéressent.
Il écoute des trucs absolument incroyables. Et donc, on va suivre ses aventures. Voilà, il traîne dans des concerts. Il essaye de rencontrer des groupes. Et il a, ce qui est très, très drôle, c'est qu'il a une bande de potes, mais absolument mais catastrophique. Donc, le pire, c'est Mickey. Alors, Mickey, qui est un type comme ça, qui a l'air assez sympa. Et alors, dès qu'il boit une bière, après, il se transforme en espèce de gremlin complètement dément. Il
toute ressemblance
strictement
des...
n'importe quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça.
Passons.
Donc, c'est vraiment la BD où on se moque de voilà de scène underground et puis de toute tout ce qu'il peut y avoir autour de ce genre de concert un peu voilà où c'est vraiment un tout petit public et donc eux ils font ça avec une férocité assez assez terrible hein. C'est un humour pas toujours très très fin hein, ça y va carrément, on a tous les détails de la santé gastrique du monsieur quoi. Oui, c'est assez lourd, mais c'est vraiment très, très, très drôle. Si, voilà, si. On voit tout de suite, ça fait penser aux personnages, quoi. On pense tout de suite aux gens qu'on a croisés dans des concerts,
voilà.
Dans des salles. Quand on est un peu un habitué. des concerts en bar, des groupes de scènes locales, voilà, c'est très 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 drôle.
Des plans foireux ou des soirées qui se finissent pas toujours comme elles auraient dû.
Voilà. Exactement.
Donc il y a une belle programmatrice
Voilà, alors bon, bah oui, notre cher blogueur, lui, ce qui l'intéresse, il est un peu hypocrite là-dessus parce qu'il arrête pas de dire non, non, moi ce qui m'intéresse c'est la musique, tout ça, enfin, vraiment. Et puis bon, bah, on voit quand même que les jolies jeunes filles qui traînent dans les concerts, ça l'intéresse quand même aussi pas mal. Et donc, voilà, alors il essaye de se mettre bien avec une programmatiste d'une des seules, enfin, de la salle underground de sa ville, quoi. Enfin, c'est vraiment la personne importante sur cette scène-là. Et puis évidemment, ça a foiré complètement parce que. Donc la démo dont il parle, dont parle le dialogue, c'est son copain bourré qui lui a fait une blague et qui a enregistré n'importe quoi un soir et qui lui a mis par la poste. Et l'autre est tellement flatté qu'on lui envoie une démo qu'il fait quelque chose de dithyrambique sur le n'importe quoi. Et donc il va programmer le groupe en concert. Évidemment, le concert va être une catastrophe totale. Très, très drôle. Donc, il y a une espèce de montée en puissance au fil du livre qui est vraiment très, très efficace. Alors, il y a le dessin de Søren Mosdahl qui est très, très intéressant, un peu grotesque, un peu, avec des visages complètement distordus comme ça, des personnages qui tanguent en permanence. Alors, la grande influence qu'on voit, c'est Muñoz, le dessinateur espagnol, argentin, pardon. Et aussi, lui, il cite Egon Schiele, voilà, dans D'accord. ses références.
Oui, effectivement, il y a de ça dans le...
Mais bon, c'est Egon Schiele qui fait de l'humour trash, quoi.
Oui, effectivement.
Et qui va voir des concerts de noise expérimental.
Toute ressemblance avec, là encore, des gens qu'on connaît très bien. Voilà.
Voilà, ça aurait fortuite.
Super, donc, on le répète, c'est chez The Hoochie Coochie, Rock World. C'est Søren Mosdahl et Jacob Ørsted.
Et c'est très 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 drôle.
C'est très très bien. Alors on passe, est-ce qu'on va dire de l'autre côté de l'Atlantique? Pas vraiment en fait, hein. C'est pas une auteure...
Non, elle est pas très très de si loin que ça.
Pourtant, son livre s'appelle Hotel California, mais Hotel A-U-T-E-L.
Voilà, A-U-T-E-L. Donc ça c'est le nouveau nouvel album de Nin Antico. Alors Nin Antico, ça fait un certain temps qu'elle commence à travailler. Donc elle travaille sur beaucoup les jeunes filles, c'est son thème. On voit que on retrouve souvent différents personnages. Et là, elle avait fait assez fort avec son précédent qui s'appelait Coney Island Baby, qui en fait reprenait une espèce de biographie un peu comme ça, flottante, très avec des envolées étranges comme ça, que j'aimais beaucoup. Donc de deux personnages de la pop culture américaine, ouais, qui étaient Betty Page, ouais, la pin-up, voilà, et Linda Lovelace, qui était une star du porno des années 70. Et donc là, elle s'attaque...
Elle reste du côté féminin.
Elle reste du côté féminin, mm-hmm, tout à fait. Et donc Hotel California, c'est A-U-T-E-L, ça s'ouvre sur une scène complètement démente où il y a une espèce de secte, voilà, qui attend le retour du Messie. Donc on a droit à une espèce de prêche complètement ahurissant. Et d'un coup, la lumière se fait. Oh, ça y est, là, ils sont arrivés. C'est le retour. Et qui apparaît, c'est Elvis.
Oui, effectivement. On va vous donner un autre indice. C'est dédié le livre à Pamela Desbarres.
Voilà.
Autre groupie.
Tout à fait. Parce que bon, bah, c'est une version, c'est sa version à elle, de la vie de Pamela Desbarres. Donc Pamela Desbarres, c'est une des plus fameuses groupies. Elle a écrit un roman qui s'appelle Confession d'une groupie, voilà, mmh, qui raconte ces années où effectivement elle suivait les groupes et plus si affinité. Et donc Nin Antico brode une espèce de, on peut dire, biographie onirique, voilà. Enfin, ça part dans... C'est-à-dire qu'il va y avoir des scènes très... vraiment très réalistes. Et puis d'un coup, elle part en tapis volant avec Jim Morrison, quoi.
Ouais.
Voilà, rien que ça, quoi. Et elle a une vision extrêmement intéressante et très... Enfin, très touchante de la groupie, en fait. La groupie, c'est vraiment un peu le parent pauvre. Hein. Enfin, on rejette un peu dans les arrière-cours de l'histoire du rock'n'roll. Et là, c'est une façon très, très intéressante, beaucoup plus ambivalente du rapport entre la groupie et la star, en fait, de qui a le pouvoir. Et ben, c'est pas toujours aussi simple de qui a le pouvoir entre les deux. Et que, donc, il y a des côtés, glauques, elle les élude pas non plus, mais elle fait ça d'une façon très, très fine et très, très intéressante. Alors, le livre s'intitule Face A, En fait, Treat Me Nice. Et donc, il y aura une phase B. Alors, ce sera la suite des années... voilà, là, on est plus dans les années 60. Hein. On va croiser les Rolling Stones, les Beatles.
Voilà, ils sont allés dans le canyon. Exactement.
Donc, on suit là, l'espèce de folie, d'effervescence. Et donc, on va suivre les groupies qui suivent les groupes au fil des... Et c'est étonnant. Enfin, il y a une façon de décrire ces groupies comme aussi des fans de musique. Pas que des gens qui viennent pour coucher avec des stars, mais des personnes très pointues voilà, qui savent où ça se passe, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, elles ont des avis sur les groupes, enfin c'est assez intéressant. Donc ça donne une vision vraiment intéressante à un personnage comme ça, ça redore le blason un petit peu de...
Des groupies,
voilà.
Ben, c'est paru chez l'association.
Oui. Premier tome chez l'association, et puis alors c'est pas tout de suite encore la suite, parce que je crois qu'elle travaille sur un petit film là actuellement, et normalement l'année prochaine je crois.
Super.
La phase B.
Donc on vous rappelle, Ninantico, Treat Me Nice, Hotel California, sur l'association.
Chez l'association.
Alors on reste chez des gens du coin avec une très très belle maison qui fait des très beaux disques justement. Qui s'appelle In My Bed et qui ne fait pas que des
livres. Et qui fait aussi des livres.
Alors explique-nous.
Alors ben là, c'est une réédition en fait. Donc c'est un récit de Sébastien Lumineau. Sébastien Lumineau, c'est un auteur rennais que j'aime beaucoup. Enfin, donc j'aime beaucoup le travail,
oui.
Qui fait des dessins géniaux et qui a une particularité, je trouve, que j'adore. Moi, c'est. Il fait des récits qui sont souvent étranges. Celui-là est plutôt linéaire, mais il fait des choses un peu plus expérimentales. Mais il y a toujours une tension permanente. Enfin, il arrive à maintenir quoi qu'il se passe. Il y a toujours une espèce de quelque chose qui nous tient, quoi. Enfin, moi, un bouquin de Sébastien Lumineau, que ça fasse 4 pages ou des récits plus longs, eh ben, voilà, je lis ça, je suis captivé par ce qui se passe.
Captivé. Alors celui-ci s'appelle donc Émile.
Ouais, Émile avec un Y, voilà, en hommage à Motorhead, voilà. Alors donc, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Émile. Et Émile, eh ben, il va dans les chambres de son grand frère et il va piquer une cassette. Et il met la cassette, il écoute, et c'est Ace of Spades de Motorhead qui rugit dans ses écouteurs.
Dédicace
à Fix. Il est sidéré. Et donc, c'était paru initialement dans un recueil qui s'appelle Nous sommes Motorhead. Alors, ça, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Voilà, ça sonne pas pareil en 2015 qu'avant. Et donc, ça a été réédité. Il a redessiné, il est complètement fou. Il a refait. Voilà, le dessin n'était pas. Et donc, c'est sorti d'un petit format carré absolument magnifique avec un papier superbe. Tous les livres d'In My Bed sont des objets absolument incroyables.
Voilà,
donc, un petit récit d'une trentaine de pages. Ça raconte donc l'adolescence de cet Émile. C'est pas simple,
non,
il est un peu souffreux. Voilà, c'est l'adolescence, c'est difficile. Et donc, Ace of Spades va l'aider à franchir quelques étapes quand même. Alors, à se casser la gueule aussi, quand même, parce que c'est quand même pas si simple que ça. Mais c'est très très drôle. Il y a un truc très amusant, c'est il chante les paroles, mais il comprend rien parce qu'il sait pas parler anglais. Donc, il fait une espèce de yaourt. Donc, il se balade en annonçant ses paroles en yaourt de Motorhead. Voilà. Clairement, ça rappelle des choses. Donc, Émile de Sébastien Lumineau, c'est un très très beau livre sur l'adolescence et la musique et comment un Walkman peut vous sauver.
Et ben justement, on parle de musique, on en écoute.
We'll be right back.
Alors, on s'est fait plaisir, on espère vous avoir fait plaisir avec un groupe qu'on a vu en concert aux Embellis, mais qu'on adorait déjà avec Monsieur B, qui s'appelle Centenaire.
Voilà, donc c'était le titre Inside War sur leur dernier album, qui s'appelle, je ne sais plus, j'ai perdu le titre.
On va vous le redire tout de suite.
Notre chère technicienne, merci Caro. Somewhere Safe, voilà, ça y est, j'ai retrouvé, Somewhere Safe. Ouais, un super concert, hein, bon... Pas grand monde hélas, mais un super groupe et un album à découvrir, hein, vraiment. Hein,
oui,
si vous aimez La Terre Tremble, si vous aimez les choses un peu comme ça, entre le tribal, un rock un peu déviant, un peu prog, c'est vraiment un super groupe.
Un super groupe, oui, exactement. Alors nous,
style.
On va continuer, effectivement. Alors, une dédicace pour Boogie.
Ouais,
avec spécial blues avec Love in Vain.
Voilà, alors là, un objet absolument magnifique, vraiment là. Donc, un format italien, hein, donc de côté, avec une petite reliure rouge et une couverture noire absolument somptueuse. C'est Mezzo au dessin. Alors, Mezzo, si vous connaissez Le Roi des Mouches ou Les Deux Tueurs, vous savez la puissance graphique de ce type. C'est le Charles Burns français, quoi. Enfin, il y a vraiment une minutie, une profondeur des noirs absolument ahurissante. Alors, vous ouvrez le. Voilà, vous allez voir. Dans votre bibliothèque ou dans une librairie, vous trouvez Love in Vain, vous l'ouvrez, vous allez avoir la mâchoire qui se décroche, quoi.
C'est
incroyable, quoi. Un dessin en noir et blanc d'une puissance absolument sidérante, quoi. Enfin, y a des pleines pages complètement ahurissantes dans cet album. Et donc,
c'est
une biographie de Robert Johnson.
Le monsieur donc, qui a croisé le diable.
Voilà.
Ouh, dans le son carrefour.
Voilà. Donc, Robert Johnson, c'est un des bluesmen les plus connus, hein. Il y a la légende en plus, il y a le côté la carrière fulgurante, là il va mourir très 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 jeune, il meurt en plus d'une façon complètement mythique puisqu'il est empoisonné par un mari jaloux, rien que ça quand même.
Dans les bluesmen, ça arrivait souvent quand même, les morts mythiques.
Voilà, c'est ça, il y en a beaucoup qui meurent mythiquement, c'est sûr. Et c'est une biographie à la fois assez classique, c'est-à-dire qu'on va vraiment suivre sa vie dans l'ordre chronologique, voilà, mais... Il y a une façon de narrer ça absolument passionnante. Donc, c'est Jean-Marie Dupont qui raconte ça. C'est un journaliste, un spécialiste et romancier. Donc, il connaît très, très, très bien la vie du monsieur. On va retrouver toutes les étapes. C'est fait très, très finement. Il y a un portrait de l'Amérique de ces années-là assez puissant, vraiment, vraiment très, très chouette. Et il y a une alliance entre le thème et le dessin. Absolument. Alors, l'album est bourré de références à la musique de ces années-là. Donc, bon, là, si vous n'êtes pas un spécialiste, vous allez louper des trucs, mais enfin, c'est absolument pas grave. Hein. Même si vous n'êtes pas un fan de blues, vous pouvez vous plonger dedans. Il y a vraiment une façon de rendre le tragique, une violence de l'époque. Vraiment, c'est assez époustouflant, quoi. Et bon, le final. Il y a une petite astuce narrative à la fin. Bon, je vous la dévoile pas, mais. C'est pas le plus fin du livre, donc c'est pas le plus intéressant, mais les scènes de concert, la façon de rendre, justement, là encore on parle de comment rendre une musique en dessin, là on a un exemple mais absolument sidérant de comment on peut lier, voilà, là vous l'avez en tête, hein, même si vous avez jamais entendu Robert Johnson de votre vie, y a pas besoin, quoi.
Mais même on vous conseille quand même d'aller écouter.
Ouais, clairement, ça aide, c'est sûr. Mais pour finir à la en bonus, là, il y a vraiment un truc très très classe. Donc vous avez un petit carnet de 8 chansons illustrées. Donc vous avez les paroles originales, la traduction de Jean-Marie Dupont, histoire de savoir de quoi ça parle, et une illustration pleine page de Mezzo. C'est
extrêmement
émouvant. Ouais, au crayon charbon, là, c'est absolument sidérant encore. Non, là, c'est vraiment l'objet. Les amateurs de BD, c'était en fin d'année, c'était vraiment le truc qui avait sidéré une grande partie. On savait que Mezzo très très fort, mais je crois que personne s'attendait au choc graphique qu'est cet album. Voilà, c'est vraiment là en termes de dessin.
Oui.
Voilà, vous avez vraiment un album époustouflant de bout en bout, quoi.
Donc c'est sorti chez Glénat. C'est donc Love in Vain.
Ouais, quel titre?
Ouais, exactement, qui reprend ça. Robert Johnson entre 1900, la vie de Robert Johnson, pardon, entre 1911 et 1938. Et c'est Mezzo et Monsieur Dupont au texte. Alors on finit avec un super coffret, objet, ouais, encore.
Voilà,
un...
voilà pareil.
Magnifique. Hein. Alors, en anglais cette fois-ci.
Voilà, alors ça.
Et on change de musique. Après
je fais mon snob. C'est la même chose.
Oui, il y a effectivement des accointances. Donc cette fois-ci, on se plonge dans le hip-hop. Mm. Mais alors pas n'importe quand, entre 1981 et 1983.
Ouais, c'est pointu, ouais. Alors quand vous voyez l'objet, c'est un coffret hein, avec deux gros livres. Comme ça, vous sortez le truc. Et donc vous regardez la date et vous dites, ah ouais, ça c'est 2 ans en fait. Donc ça, c'est Ed Piskor. Ed Piskor, c'est un monsieur donc, qui est passionné de cette musique-là. Et donc pour Boing Boing, c'est un webzine américain, il s'est amusé à faire des courts en fait, récits de 2-3 pages, comme ça, où et ben, et, voilà, l'album s'appelle Hip Hop Family Tree, donc l'arbre généalogique du hip-hop. Il va raconter la naissance et donc toutes les ramifications du hip-hop sur une période très très courte. Alors, c'est un fou, hein. Enfin, c'est vraiment un passionné. Il y a une somme de détails là-dedans, mais absolument ahurissant, quoi. Ce qui est le plus épatant, c'est que donc vous avez tous les artistes de l'époque, on est dans le Bronx, on est à New York, dans les quartiers chauds, donc on va suivre les fêtes, on va voir tous les différents artistes, comment ils se croisent, comment ils se lancent des défis, ils font des choses ensemble, ils s'engueulent, voilà, les incroyables block parties. Donc bon, tous les personnages sont là, hein, tous, hein, vous avez Grandmaster Flash, vous avez comment il s'appelle, Melmel, voilà, enfin, il va vraiment, c'est extrêmement, les Beastie Boys. On va voir le droit enfin, à tous, et dans vraiment le détail, il y a une minutie notamment sur tout ce qui est vêtements ou
ouais.
Le look des personnages, c'est absolument incroyable ce qu'il fait. Ce qui est génial, c'est que vous lisez la BD et puis bah, ça vous donne envie d'écouter la musique, et sauf qu'on est en 2015, donc bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur internet, vous tapez le truc et vous avez le morceau dans la seconde, et là vous regardez la vidéo et vous dites mais purée, c'est exactement, où il y a des dessins d'Africa Mambata. Ouais. Où il est en costume sur le clip de Rock World, ou avec un costume absolument incroyable de guerrier.
Entre Gengis Khan et je ne sais pas trop comment dire. Hein.
Guerrier extraterrestre, absolument, on dirait du Drouillet. Enfin, un truc complètement hallucinant. Et vous regardez le clip et vous dites, mais oh, purée, c'est exactement à la visière près. Enfin, chaque détail du casque est rendu. Donc, c'est un dessin qui est... Bon, qui rend hommage au graphe aussi. Enfin, on voit bien que lui, ce qui l'intéresse, c'est la culture hip-hop. C'est-à-dire qu'il y a la musique, hein, elle est omniprésente, mais il n'y a pas que ça. On va croiser Basquiat, on va croiser les premiers graffeurs. Il y a vraiment la totale. Il y a les documentaristes qui passent, qui font des films sur eux. Enfin, toute la scène est vraiment rendue hyper finale. Alors, c'est très foisonnant. Alors, c'est réservé à ceux qui ont un anglais voilà assez riche en langue, en slang un peu, hein, quand même faut aussi connaître quand même parce que c'est quand même des rappeurs, et alors quand ils parlent faut s'accrocher un peu, il y a quand même un certain nombre de bulles où vous êtes quand même obligé de prendre la bulle et de la lire à haute voix pour comprendre ce qu'il dit. C'est assez drôle. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a un truc qui rend super bien, c'est le flow. Ça, c'est génial.
Ouais.
Vous lisez la bulle et vous entendez le type scandait son texte. Alors, il y a l'écrit, donc c'est en plus là, vous avez toute la finesse des rimes, des vannes, tout est dans le détail, parce que quand vous réécoutez, le problème c'est qu'on n'y comprend rien à ce qu'il raconte, quoi. Enfin, même si vous êtes très 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 fort en anglais, c'est impossible de... Donc là, vous avez le texte, ça vous permet de regarder le texte, vous écoutez le truc, et vous dites, ah oui, c'est ça qu'il raconte.
Découverte comme ça. Alors, c'est pas noir et blanc cette fois-ci?
Non, alors là, il y a des couleurs. Alors, le papier est génial. Hein, voilà, il a voulu reconstituer une espèce de comics des années 80. Enfin, voilà, c'est en fait, il reprend l'esthétique des comics Marvel de ces années-là. C'est-à-dire que vous avez un espèce de papier. Un papier pourri, vraiment pourri, donc avec des couleurs assez sombres et un espèce de grain assez... Il s'amuse même à faire des ratages d'impression, tout ça, il y a des images avec des doubles, enfin voilà, tout ça est très très méticuleux encore. Et donc ça donne une esthétique, voilà, on est dans les années 80, hein, ça rend exactement ça, quoi. Il a une capacité à reconstituer cette époque là qui est assez ahurissante, quoi. Et puis on attend la suite. Alors la suite est sur Boing Boing, hein, on peut suivre les trucs, mais c'est pas pareil de le lire sur le net quand même, hein. Là sur un écran,
Bah là, le honnêtement, le format est parfait.
Le format est génial. Donc là, ils ont compilé ça dans deux grands volumes. Hein. C'est des formats assez balèzes. Ça fait une bonne trentaine de centimètres de hauteur. Hein. C'est des pages. C'est très très confortable quand on se perd. Puis alors, voilà, il a un dessin très complètement détaillé. Là. Vous avez tous les détails des mimiques, toutes les jeux de posture et tout. Enfin, c'est extrêmement bien rendu. Il y a c'est une suite d'anecdotes complètement. Enfin, tout ça est passionnant.
Il y a quelqu'un qui allait au concert avec son papa Flip, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Alors, on découvre l'enfance de Rick Rubin. Donc, Rick Rubin, producteur mythique, créateur de Def Jam. On le voit découper ses petites lettres pour faire son logo, le fameux logo de Def Jam. Et donc, Rick Rubin, donc son papa, il était policier. Voilà, ça arrive. Et on voit le papa de Rick Rubin qui est très content de son fiston, qui est super cool, qui l'emmène. Alors, il l'emmène au CBGB. C'est ça. Donc lui, il va voir des concerts de punk et tout. Et il l'attend à l'extérieur pour pas qu'il rentre trop tard, quand même. Et donc, le personnage de Rick Rubin, c'est quelque chose, quand même. Enfin, même les Beastie Boys, enfin, la façon dont ils racontent la création et la façon dont ils vont créer leur style, c'est absolument génial. Donc, je sais pas quand ça sortira. J'espère. Enfin, je vois pas pourquoi ça sortirait pas en français. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, il y a vraiment une richesse incroyable. Ça m'a fait penser à un autre livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Chant de la Machine,
oui,
qui était deux tomes, qui parlait de la musique électronique et qui avait une façon comme ça, un peu, de flottante. Enfin, qui partait dans tous les sens, qui faisait des connexions, qui était alors moins abouti peut-être que celui-là, quoi. Oui. Mais qui était vraiment très très intéressante. Et là, lui, il a, enfin, une façon de raconter ça hyper hyper riche, hyper détaillée, hyper méticuleuse, et à la fois, enfin, ça se lit mais avec une facilité déroutante. Donc les éditeurs français, allez, jetez-vous là-dessus. Enfin, il y a vraiment moyen de faire un ouvrage magnifique. On vous reparlera évidemment s'il y a une sortie française.
S'il y a une sortie française. En attendant, vous pouvez donc trouver le coffret chez Fantagraphics. Donc Hip Hop Family Tree, et on se retrouve le mois prochain.
On se retrouve le mois prochain. J'essaierai de faire des BD de 2015. On va essayer de raccrocher un peu.
On va trouver un nouveau thème. Merci à tous.
Au revoir à tous. Merci à Caro pour la technique.
Ouais. Et merci Monsieur B pour cette sélection, encore une fois, super alléchante.